Un nouveau podcast proposé par M Provence avec un chef d'entreprise qui nous vient des départements alpins, Martin Guinchard, pour l'entreprise Sacré Willy. Alors Martin, racontez-nous votre histoire, qui est une histoire familiale d'une entreprise agroalimentaire qui fabrique de délicieux desserts, mais ça on en reparlera dans quelques instants. Peut-être un peu la genèse et l'histoire de l'entreprise.
Ben bonjour tout d'abord, merci de m'accueillir. Du coup oui, je m'appelle Martin et je suis le descendant de Willy. Et c'est comme ça que est né le nom de la marque Sacré Willy. Et donc nous, on est des fabricants de desserts lactés. On est basé donc du coup dans les Hautes-Alpes, à côté de Gap, à Tallard plus précisément, et au pied des fermes de montagne. Donc parce qu'on a encore de la chance dans notre belle région du sud, on a encore du lait dans les Alpes et donc dans les Hautes-Alpes.
Aujourd'hui, vous travaillez avec quels clients principalement? C'est la distribution spécialisée, les épiceries?
Alors on a plein de canaux différents, la grande distribution, les indépendants. Et les épiceries fines ainsi que les magasins de bouche, donc les fromagers, les bouchers, enfin voilà, toute une sélection de partenaires qui veulent bien présenter des produits d'exception ou en tout cas des produits qui sont bons.
Alors ces produits donc ils sont très locaux, fabriqués avec des produits de base qu'on aimerait tous avoir dans notre cuisine, c'est ce que vous me disiez quand on préparait cette interview. Aujourd'hui il y a une clientèle pour ce type de produits qui accepte, je pense, de les payer peut-être un peu plus cher que des produits vraiment de la très grande distribution.
Alors oui, en fait je pense que la base de tout c'est l'ingrédient et surtout la qualité et gustative et surtout le voyage, l'expérience. On parle beaucoup aujourd'hui d'expérience client et en fait nous on est en plein là-dedans, c'est-à-dire que notre pari quand il est gagné c'est quand on nous dit vraiment vous m'avez fait revenir en enfance, c'est-à-dire vous m'avez proposé des... j'ai goûté un produit qui m'a rappelé mes souvenirs de gamin. Donc ça on l'obtient comment? On l'obtient tout simplement en utilisant des bons ingrédients. Et en travaillant avec une méthode qui vient de mon arrière-grand-père, de mon grand-père et que mon père vient de me transmettre.
Aujourd'hui, vous avez un outil industriel. Comment ça se passe et comment vous modernisez quand même l'outil, même si vous gardez les traditions?
Alors, c'est vrai que nous, c'est la particularité de notre segment d'activité, les produits laitiers. C'est que les produits laitiers, ce sont des produits qui sont à faible marge en termes de valeur et donc du coup qui ont une nécessité d'être remis en fréquence de fabrication très fréquemment. Je m'explique, on est obligé de fabriquer une recette tous les 10 jours. On ne peut pas la fabriquer tous les 6 mois parce que ce sont des produits périssables. Donc on est obligé d'avoir un outil industriel, donc c'est du semi-industriel. Je dis souvent qu'on est entre l'industrie et l'artisanat parce qu'en fait on va appliquer les mêmes procédés que ce que vous faites à la maison, mais avec des tailles de cuve plus grandes.
Donc ça signifie qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un dosage des ingrédients qui va être différent d'une semaine sur l'autre en fonction de la matière première qui arrive?
Alors pas le dosage des ingrédients, mais par contre la technique de fabrication, effectivement, va varier. Parce qu'en fait, étant donné que notre principe et notre philosophie, la philosophie chez Sacré Willy, c'est de travailler qu'avec des ingrédients naturels, mais au-delà de naturels, qui se retrouvent dans votre cuisine. Et en fait, on a notamment une gamme de produits qui s'appelle donc les crèmes desserts, qui sont des crèmes desserts cuites au four. Et cuites au four avec quoi? Avec un ingrédient qui est l'ingrédient le plus basique possible, qui sont donc les œufs. Et donc avec la cuisson qu'on va faire au pot, qui contient donc de l'œuf, on va obtenir une texture bien particulière qui donne la crème aux œufs. Et en fait, cette texture-là, elle va varier entre l'hiver et l'été, tout simplement parce que les poules ne mangent pas la même chose l'été que l'hiver.
Donc on n'a pas besoin d'être sur du bio, parce que vous ne m'avez pas employé le terme bio depuis le début. Naturel, ça suffit.
Alors vous avez très bien noté que je ne parle pas de bio, effectivement. Pas parce que je n'y crois pas, simplement parce qu'en fait on fait déjà des produits qui s'inscrivent dans une logique et une démarche. Alors le mot démarche est beaucoup à la mode. Moi j'aime bien parler de fondamentaux. Et mon fondamental, c'est simplement de travailler en toute logique avec la nature, mais surtout les ingrédients et les bons ingrédients qu'on a. Donc on ne travaille pas sur des labels, vous ne verrez aucun label apposé sur nos pots, tout simplement parce qu'en fait on va travailler d'abord le savoir-faire par lequel est issu l'ingrédient. Donc le savoir-faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup de fournisseurs qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui travaillent de famille, depuis 4-5 générations, certains. Le chocolat, c'est 4e génération. Le riz, c'est 5e génération de riziculteurs. Bref, on a systématiquement comme ça des sélections et on sélectionne nos ingrédients parce qu'on croit et surtout on vérifie bien entendu, mais en tout cas on croit à l'histoire qui nous est racontée, parce qu'il y a une vraie transmission et une vraie valeur dans la méthodologie de travail.
Et vous allez jusqu'où? Parce que les rizières, il n'y en a pas beaucoup dans les Alpes, donc Camargue, ou vous allez plus loin que ça?
Non, on va tout simplement au plus proche, c'est-à-dire en Camargue. Donc notre riz vient de Camargue. Nos œufs viennent des Alpes, parce qu'il y a une petite ferme qui fabrique de l'œuf et qui casse les œufs aussi, parce qu'on utilise de l'œuf qui n'est pas en coque, hein, on utilise de l'œuf liquide. On a bien entendu, et on n'en a pas parlé, mais notre lait qui est collecté à moins de 25 km à vol d'oiseau de notre atelier. Ça veut dire qu'en fait, on a vraiment une proximité avec les producteurs avec lesquels on travaille, qui eux sont là depuis des générations et qui vont nous proposer, nous livrer leur lait. Donc avec une qualité et une démarche sur lesquelles ils s'engagent à travailler de la bonne manière, comme on peut le croire et le voir dans les Alpes, parce que bah, vous n'avez pas oublié que dans les Alpes, à partir du mois de novembre, il y a de la neige.
Oui, enfin avec le réchauffement climatique, il y en aura encore pour quelques années.
Oui, la problématique aujourd'hui sur le lait, c'est vrai que c'est une filière qui est en diminution, mais on est justement là pour l'aider, l'accompagner. On est un des piliers dans le département pour encourager les installations et les transmissions de producteurs de lait. Et comment on fait? C'est simplement déjà en très bien rémunérant nos producteurs, c'est la première base, et surtout en engageant un dialogue et une discussion sur leurs problématiques, leurs contraintes, pour essayer d'adapter nos productions et nos produits à leurs contraintes, parce que bah, ils ont un certain nombre de contraintes, et notamment climatiques.
Vous pouvez espérer que dans les générations suivantes, alors vous, avec l'outil industriel ou artisanal dont vous me parliez, il n'y a peut-être pas de problème, mais par contre, les producteurs avec qui vous travaillez, il y aura des reprises d'exploitation, il n'y aura pas une concentration dans le domaine du lait, on parle toujours des fermes de 1000 vaches et autres.
Alors les fermes de 1000 vaches, ça non, je n'y crois pas.
Enfin, pas dans les Alpes peut-être en effet, oui.
Pas dans les Alpes, mais par contre, effectivement, il y a un vrai enjeu et un vrai sujet de société. Je pense que c'est le mot sujet de société est fort mais réel. On l'entend tous les jours et c'est une réalité. Hein. Il y a de moins en moins d'agriculteurs en France. Et en fait, aujourd'hui, il faut qu'on se pose les bonnes questions sur ce quoi on est prêt à payer. Et donc forcément, à payer un peu plus cher, parce qu'il y a une logique de traçabilité, une logique de travail humain. Parce que la traite du lait, c'est deux fois par jour, à 5h du matin et à 18h le soir. 365 jours de l'année, il n'y a pas de vacances, donc c'est un engagement, c'est un métier passion. Le métier d'agriculteur aujourd'hui n'est pas un métier sur lequel on le fait parce qu'on veut juste gagner de l'argent. On le fait d'abord par passion et aussi pour faire bien son travail et en tout cas essayer de nourrir les gens avec des ingrédients de qualité.
Ces circuits courts que vous développez dans la production, on reparlera peut-être après de la distribution, aujourd'hui vous amène à être aidé un peu par les collectivités locales. Il y a des gens qui disent, bon ben voilà, dans les cantines ou dans les hôpitaux ou dans les cliniques des Alpes, on va essayer de mettre un petit peu, même si ça coûte un peu plus cher, de mettre un petit peu de production locale.
Alors oui, mais pas que. C'est pas qu'au local, hein, c'est au niveau de la région, parce qu'on a actuellement donc une démarche pour essayer de développer un produit. Je peux pas trop en parler aujourd'hui parce que il y a encore un certain nombre de choses qui doivent être validées. Mais on est en train de travailler justement à un produit qui puisse permettre à l'industriel que je suis de garantir au producteur de prendre son lait toute l'année et en quantité totale, c'est-à-dire de ne pas avoir une semaine où je lui prends et une semaine où je ne lui prends pas, et tout simplement en faisant en sorte que l'ensemble de la chaîne, donc autant le producteur que le transformateur ainsi que la distribution, donc la distribution des collectivités, s'engage main dans la main de se dire, ben voilà, on a un produit qui est de qualité, qui est fait localement, par des gens du terroir, du terrain, et qui nourrit une totalité de la chaîne, du consommateur, de la fourchette, la fameuse fourche à la fourchette, quoi.
Et sur justement la consommation, quand on parle de ces accords avec la région, si je retrouve vos produits dans une cantine à Toulon ou à Nice, ils auront été transportés de quelle façon? Est-ce que je peux me dire, bon, bah, finalement, sur l'ensemble de la chaîne, il y a des efforts qui ont été faits par la filière?
Alors, le sujet du transport, c'est un enjeu majeur pour nous, parce que c'est vrai qu'on fait des produits frais, frais égale consommateur d'énergie, parce que bah, on consomme de l'énergie pour faire du froid. Et en fait, nous, on travaille avec un acteur qui est un acteur local, régionalisé, sur lequel il a donc une flotte de camions et sur lesquels ils ont, mais c'est la logique économique après qui prend le dessus et qui fait que la logique économique devient une logique écologique, c'est que l'objectif dans le transport, c'est de faire le moins d'arrêts possible. Parce que plus on fait d'arrêts, plus ça coûte cher, mais aussi plus ça pollue. Et donc, en fait, on a cette chance, on n'a même pas voulu, mais c'est cette chance, c'est d'avoir un opérateur de transport qui fait très peu de points de chute, ce qu'on appelle. Ça, c'est sur notre mode de distribution, en fait, à nos clients, hein, qui sont des distributeurs ou des cantines, voilà. Et puis après, on a d'autres modes de transport sur lesquels on va plutôt adapter aux consommateurs. Donc, on a un site de vente en ligne. Hein, pour le retrouver, c'est eshop.sacrewilly.com. Et sur lesquels, en fait, il suffit de remplir le code postal. Donc, on a peu de villes, justement, pour avoir une logique éco. Logique, moi j'aime bien de déconstituer le mot éco et logique, où en fait on va proposer donc dans certains bassins, donc bassin niçois, bassin parisien, bassin lyonnais, des livraisons en 48 heures, 48 à 72 heures, avec des vélomanes. Donc en fait on va aller livrer le dernier kilomètre à vélo.
Superbe. Et cette filière, elle a des relations avec les autres filières agroalimentaires des Alpes, comme la viande, la charcuterie, les fruits?
Alors, on est un petit peu le petit poussé de notre région. C'est vrai qu'on est le dernier arrivé dans là où on est, à Talard. Hein. On a construit l'atelier de fabrication, même si on a un historique de 100 ans de savoir-faire. On a développé notre atelier de fabrication à Talard en 2014. Donc, on est tout nouveau. Et c'est vrai que nos marchés aujourd'hui sont très peu localisés, mais plutôt régionalisés ou nationalisés. C'est-à-dire qu'on vend beaucoup plus de produits en région parisienne et région lyonnaise qu'en région... que dans les Alpes, tout simplement. Et en fait, c'est vrai qu'on essaye progressivement de constituer des partenariats avec d'autres confrères, mais on est au balbutiement. En 2014, ça fait à peine 10 ans qu'on travaille dans les Alpes.
Aujourd'hui, votre département est un grand département touristique français. Est-ce que ça a de l'impact aussi sur votre activité, à la fois en distribution, puis peut-être ce qu'on appelle le tourisme industriel? Des gens viennent vous voir en disant « Tiens, il n'y a plus de neige, je ne peux pas aller au ski, mais je vais aller voir une boîte qui fonctionne, qui fait des bonnes choses et je vais aller goûter les produits locaux ».
Alors, c'est tout nouveau chez nous. C'est vrai qu'on avait plutôt une image de produit bobo parisien, on dit souvent. Et en fait, ça fait 3-4 ans qu'on s'investit beaucoup au niveau territorial, donc local, dans les Alpes, pour essayer d'émerger comme une marque, en tout cas identifiée, identifiable, comme une marque des Alpes. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu, moi, une phraseologie qui disait « Je fais venir les touristes dans les Alpes », parce que la quasi-totalité de nos magasins, on a plus de 99% de nos magasins qui sont en dehors du 0,5 et 0,4. On fait venir les touristes et ensuite, vous avez des fromageries territoriales, donc locales, qui, elles, justement, vont faire le job, d'une certaine manière, du produit local de passage pour les touristes. Et c'est assez nouveau chez nous. Depuis 3-4 ans, on développe justement ce travail-là. Donc, on participe à des festivals locaux. On va dans les stations de ski. Peut-être que cet hiver, vous aurez la chance, en bas de votre station de ski, de retrouver un chocolat chaud au Sacré Willy, servi en bas des pistes. Le vendredi soir pour l'accueil, ça se fait souvent, ça se fait pas mal dans les stations. Et typiquement, voilà, on essaye de développer, nous, notre visibilité et surtout notre développement sur le territoire local par ce biais-là, le fameux agrotourisme.
La marque Provence en général et peut-être même des marques Alpes d'Haute-Provence ou Hautes-Alpes, ça peut fonctionner en marketing. C'est quelque chose qui commence apparemment à percoler un petit peu. C'était très difficile il y a quelques années parce qu'il y avait beaucoup de bagarres internes. Là, aujourd'hui, les gens sont plus raisonnables et arrivent mieux à travailler ensemble sur ces concepts.
Alors, c'est un vrai sujet d'actualité hein, parce qu'il y a d'énormes... tractation en ce moment pour savoir quels sont les labels de demain et les identifications de demain régionales ou territoriales. Et nous, très clairement, on a fait notre... c'est pas notre choix, mais en tout cas, on s'engage vraiment assez fermement et on veut faire partie des acteurs majeurs, notamment de la marque Alpes, Alpes du Sud, parce que on est basé dans les Alpes. Il y a ces fameuses trois marques monde, Provence, Alpes et Côte d'Azur. On a cette chance de pouvoir se reposer sur ça parce qu'il y a un gros job qui est fait de la région pour pouvoir justement être visible. Et je pense que dans les 3-4 années prochaines, il va y avoir un vrai changement drastique en tout cas j'y crois et je l'espère, de philosophie de la part de la totalité des acteurs, hein, que ce soit transformateur ou distribution, parce que c'est surtout là que ça se joue, sur la récupération, on va dire, de ces fameuses marques-là, pour faire en sorte d'être visible sous le sein d'une bannière. On a des confrères qui sont sur un océan plus au nord, qui sont très forts là-dessus. Et nous, il faut qu'on arrive à se défendre. C'est pas se défendre face aux Bretons, hein, je dis un gros mot. Je dis pas un gros mot, pardon. Mais avec une volonté de défendre notre territoire, parce qu'on a un territoire qui est magnifique et qui a une histoire, qui est véhiculée par ces trois fameuses marques, Provence, Alpes et Côte d'Azur.
On a parlé de votre environnement, on va peut-être revenir dans l'entreprise, peut-être déjà directement ce qui vous concerne. Comment vous trouvez le temps à la fois d'être producteur et puis apparemment de vous impliquer dans la filière, peut-être même dans les syndicats professionnels. Enfin, on voit que vous avez aujourd'hui une volonté aussi d'engagement au-delà de votre propre entreprise. Comment on gère ça? À une époque, on dit que les jeunes générations, bon, bah, y a le travail, puis il y a beaucoup d'autres choses à côté.
Alors, c'est très vrai. J'ai pas dit mon âge, hein, mais j'ai 34 ans. J'ai deux enfants et j'essaye de trouver le temps. Alors bien sûr, ma femme me dit que j'ai pas assez le temps de m'occuper de ma famille, mais j'essaye de trouver le temps. Et j'ai cette chance, c'est d'avoir une équipe sur laquelle je puisse me reposer. Je vais saisir l'occasion de les remercier parce qu'on a vraiment une équipe qui est à la fois investie, dans le sens où elle se donne du matin au soir à fond, pour véhiculer et continuer à faire grandir l'histoire. Aujourd'hui, on est 27. Et on a une volonté, en fait, de croquer le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste de faire connaître l'histoire de Willy et de faire en sorte de pouvoir être visible. Et la partie visibilité, je suis le premier ambassadeur de cette marque parce que ben, j'engage d'une certaine manière ma famille. Et c'est important pour moi, en fait, d'être visible, mais pas pour obtenir les médailles. Les médailles ne m'intéressent pas. Elles m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que mon écosystème, donc moi je suis sur à la croisée des chemins entre l'agriculture, l'industrie et les produits de bonne bouche, soit tiré vers le haut, parce que ben, c'est à ça que je crois. J'ai été formaté certainement par mon père et qui m'a donné cette philosophie, cette vision-là de se dire, quand on fait des choses, il ne suffit pas juste de dire on est artisan pour dire que c'est la bonne bouffe.
Je reviens sur le terme médaille que vous avez employé. Ben, encore une question qui sort un peu peut-être du contexte de notre discussion, mais les Jeux Olympiques dans les Alpes, vous y croyez et ça pourrait vous apporter quelque chose?
Alors au-delà d'y croire, j'y...
Vous y contribuez.
Je veux y contribuer en tout cas et j'y compte bien. C'est vrai que si cette candidature va au bout, je serai un de mes défis les plus fous, entre guillemets, c'est qu'on soit un des partenaires identifiés sur la partie chocolat chaud notamment, parce que qui dit JO d'hiver dit égal froid, dit égal réconfort au bas des pistes et par notamment donc un chocolat chaud.
Oui, pas seulement des marques de chocolat avec des vaches violettes, enfin en tout cas des papiers violets, etc. Sur la motivation qu'il y a dans vos équipes par rapport à ça, c'est important de leur dire bah, on va peut-être être sur un territoire où il va y avoir un enjeu sportif considérable. Est-ce que les valeurs du sport et les valeurs de l'entreprise font bon ménage chez vous comme ailleurs?
Alors c'est clair que c'est un enjeu important. Je pense que c'est trop tôt aujourd'hui pour en parler parce que la visibilité sur cette candidature est encore assez éloignée. Mais on agit déjà, on est déjà acteur sur le plan sportif. Notamment, on a participé à l'été dernier avec un festival qui était l'Outdoor Mix, donc qui était un festival alliant musique et sport. Donc les sports d'extérieur, canoë, BMX, etc., etc. Et sur lesquels, en fait, on a été un des partenaires majeurs et sur lesquels on a envie de continuer dans cette démarche-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend bien compte que le sport est un peu à la croisée des chemins entre les valeurs fondamentales du sport, de respect, d'éthique, etc., qu'on a dans l'agriculture, et puis d'enjeux de c'est pas de la compétitivité, mais si, presque, de compétition. Je suis un chef d'entreprise. Par nature, je suis un compétiteur et donc j'aime aller relever des défis. Et donc, en fait, ces deux axes-là se rejoignent et c'est une des raisons pour laquelle, oui, on agit aussi, on accompagne aussi les démarches sportives.
Et aujourd'hui, votre équipe d'une trentaine de personnes, elle a quelle pyramide des âges? C'est plutôt des jeunes?
Alors, c'est une pyramide très plate, moyenne d'âge 38 ans. On a cette pyramide qui est un peu plombée par deux personnes qui ont au-delà de 40. Mais sinon, la moyenne, elle est plutôt entre 25 et la trentaine. J'ai 34 ans et mon équipe me ressemble beaucoup.
Et donc, on trouve des gens motivés pour travailler dans des industries qui sont parfois un peu controversées, comme les industries dites agroalimentaires.
Alors, c'est vrai que moi, c'est une des particularités quand vous venez chez nous, et avec plaisir pour vous dire au revoir, pour venir visiter. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous. On dit souvent industrie égale travail à la chaîne égale pénibilité. Vous venez chez nous, ce sont des gens de multiples orientations. C'est des reconversions, des gens qui croient à leur boulot, des gens qui ont été formés, des gens qui ont été, quand je dis qui ont été formés chez nous, j'ai des exemples de gens qui ont été formés pendant 5 ans, puis derrière, donc en apprentissage, et puis derrière, ils ont signé un CDI. Parce qu'en fait, oui, j'ai la prétention de dire qu'on se plaît chez nous, parce qu'on a, une dynamique, on ne vient pas au travail juste pour travailler, on vient pour participer à une aventure et pour se défoncer au service de Willy, dans le sens où on participe à un projet qui est à la fois de nourrir des gens qui aiment la bonne bouffe et puis aussi de transmettre un savoir-faire. C'est quelque chose qui est hyper important chez moi. L'ensemble des équipes doit être en conscience, c'est-à-dire elle doit savoir ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Et pour faire ça, en fait, je passe beaucoup de temps à transmettre. Donc j'étais ce matin même dans les ateliers, simplement, ben voilà, c'est même pas montrer, c'est pour bosser et pour voilà, faire le job et activer c'est pas cette mission, mais en tout cas cette volonté que j'ai de transmettre un savoir-faire. On m'a transmis un savoir-faire et j'ai la volonté, entre guillemets, de faire transpirer auprès des équipes.
Donc vous avez un recrutement qui est en fait très, très hétérogène. Il n'y a pas de filière particulière, de CAP ou autre pour venir chez vous. Vous avez quand même un peu de gens qui viennent de la formation initiale ou c'est principalement des reconversions et des gens qui ont envie de s'éclater sur un beau produit?
Non, je dirais que c'est deux tiers de vocation. Donc c'est des écoles de lettrerie, des écoles d'ingénieurs, des écoles d'ingénieurs. Et puis après, il y a des reconversions. Et c'est étonnant. Enfin, c'est comme ça. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Les reconversions sont sur tous les types de postes. C'est pas que sur des métiers opérationnels. Ça peut être sur des métiers de ce que j'appelle back-office. Et sur lesquels, en fait, on se rend bien compte qu'on est dans un monde qui bouge. C'est un peu cliché. Mais en tout cas, on n'a pas la vocation de faire un métier pendant 40 ans, comme le faisaient mes grands-parents et mon père. Et ça bouge, ça avance. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut juste l'intégrer. Voilà, les gens qui sont là pour 4-5 ans, il faut faire en sorte de tailler un outil et un poste pour...
Est-ce que dans vos équipes, vous avez des bataillons de juristes? Parce qu'entre les lois Egalim et autres, les différentes adaptations, les débats entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire, entre l'ANIA ou l'ARIA et le gouvernement, c'est pas toujours très facile. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qui est produit transformé pose des tas de problèmes à la société. Comment vous voyez ces choses-là?
Alors, on n'a pas d'armée de juristes parce que déjà, on n'en a pas les moyens et ni le besoin aujourd'hui. On est trop petit pour justement être accompagné, tant mieux. Enfin, accompagné en tout cas, on n'a pas de besoin particulier. On est surtout accompagné par les fédérations. Donc, en fait, on cotise à différentes fédérations. Donc, bien entendu, l'ARIA, qui est donc le regroupement des industries agroalimentaires. Donc, l'ARIA Sud.
Dans la région.
Dans la région, donc dans le Sud. Et en fait, qui, eux, ont justement des juristes qui viennent apporter leur expertise et leur déchiffrage aux nouvelles lois qui sont incessantes et qui sont régulièrement challengées. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai été sollicité par la Direction Générale des Entreprises, DGE, à Bercy, en disant « Mais quelles sont vos bonnes idées pour essayer de simplifier les choses ?» Ma seule recommandation, c'était arrêter de légiférer. Il faut rester simple. Voilà, ce qui existe, existe. Mais arrêtons de mettre des empilements de couches. Et l'objectif d'une entreprise agroalimentaire, c'est ni d'arnaquer son consommateur, parce qu'aujourd'hui, tout se sait, donc je ne vois pas bien l'intérêt d'arnaquer le consommateur, ni de rincer, c'est une expression un peu cash, mais qui est véridique, de rincer son producteur, parce que sans producteur, elle ne peut pas produire. Donc il faut simplement faire confiance aux entreprises. C'est vrai que ce n'est pas facile. Dans notre culture française, je ne suis pas pro du... du French bashing, mais parfois, il faut quand même se le dire, on a une culture de remise en question, de toujours critiquer. Et ben, c'est dommage parce qu'en fait, on a quand même pas mal d'avantages à être français et à travailler dans ce pays. Et du coup, ben, il faut simplement se faire confiance et essayer d'avancer ensemble.
Donc vous avez une réponse pour les gens qui disent il y a de moins en moins de produits à l'intérieur des boîtes ou des contenants de l'agroalimentaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a...
L'inflation, ouais. C'est marrant parce que c'est un concept qui revient, parce que ça a déjà existé, il ne faut pas croire que ça arrive suite à l'inflation. Ça a toujours existé, je ne suis pas sûr que ce soit un phénomène qui ait un vrai impact. Voilà, on parle beaucoup de ça aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça serait intéressant de voir la statistique de nombre de produits qui ont subi ça. Je ne suis pas convaincu que ça représente une part majoritaire. En tout cas, nous, on ne le fait pas pour la simple et bonne raison. C'est que malheureusement, on a déjà des produits qui sont déjà chers. Donc, de toute façon, on n'avait pas à essayer de baisser les prix. On était déjà chers.
Et comment, justement, on lutte contre ces idées que vous estimez être des idées fausses? Parce qu'il y a toute une médiatisation autour de ça. Et on doit se sentir parfois un petit peu petit par rapport, justement, à ces déferlements médiatiques. Quel est votre sentiment à ce sujet-là? Et comment vous arrivez à contrebattre un peu ces idées?
Alors, je ne contrebats pas. Je fais en sorte, justement, d'être audible dans le sens où je suis une PME. Je suis un patron de petites entreprises, je ne suis pas un patron d'un grand groupe, donc je sais que les grands groupes n'ont pas du tout les mêmes contraintes, et on a besoin des grands groupes comme on a besoin des PME. Et en fait, moi, ma stratégie, c'est la différenciation, tout simplement. C'est essayer de faire les choses différemment pour qu'on soit visible et faire en sorte qu'on achète nos produits pour se faire plaisir. Voilà. Si on peut résumer, c'est ça, c'est essayer de se faire plaisir.
Un dernier mot sur l'attractivité de notre région et puis de votre département. Il y a des moments où on disait oh, les Hautes-Alpes, c'est quand même très compliqué, il n'y a qu'une route. Si c'est barré à Serre-Ponçon, ça commence à devenir très, très difficile. Aujourd'hui, on voit que c'est un département qui séduit beaucoup les jeunes. Quelles sont aujourd'hui les chances, les qualités de ce territoire pour les décennies à venir?
Je vais vous faire une réponse très simple. Je pense que c'est des idées reçues et que ça fait partie de l'ancienne génération. Je n'ai rien contre la génération. Au contraire, l'ancienne génération, elle nous a transmis des valeurs. Mais en fait, aujourd'hui, vous êtes... Là, je vais prendre le train pour Lille. Donc, ce soir, je suis à Lille. Ce matin, j'étais à Tallard. Demain soir, je rentre chez moi, à côté de Grasse. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir voyager assez facilement en TGV. Je ne prends pas l'avion. Je fais des choses simples. Juste un exemple business. Nous, notre méthodologie, elle est assez simple. On se repose sur un partenaire, le fameux logisticien qui fait le moins de points de chute possible. Un client qui nous passe commande à 11h, il est livré le lendemain matin à 7h à Paris. Donc on sait faire, il suffit juste d'essayer de discuter avec les interlocuteurs, essayer de travailler main dans la main pour voir quelles sont les contraintes des uns et des autres. Parce que bien entendu que faire partie d'une commande à 11h le lundi et qu'elle arrive à 7h le mardi, il faut une sacrée organisation, un sacré chaînage qui fait que ça marche.
Martin Guinchard, une question aussi sur les parcours que vous faites avec la région pour l'amélioration de votre outil industriel. On parle toujours d'une industrie nouvelle. Aujourd'hui, il y a des aides, il y a des formations pour faire évoluer l'outil.
Alors oui, complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a cette chance de travailler en France avec des beaux moyens, des beaux territoires. Et on a cette chance d'être dans une région qui bouge, la région sud, qui met le pied à l'étrier des industries. On a bénéficié 3 fois de subventions, donc ce sont des chèques à l'investissement. Et la garantie, nous, qu'on apporte, c'est de rester dans le territoire, d'employer des gens du territoire et surtout d'investir pour l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait en sorte de pérenniser le travail. Nous, la mission que l'ARIA nous a permis aussi de compléter, c'est une mission de digitalisation, de robotisation. Et en fait, c'est une mission de robotisation. On croit souvent que la robotisation, c'est enlever de l'emploi. Non, moi je dis plutôt c'est de le pérenniser. Parce que qu'est-ce qu'on va robotiser? On va robotiser les tâches ingrates. C'est aussi simple que ça. Je pense que plier des cartons comme je faisais à 7 ans dans les ateliers de mon père, c'est pas quelque chose qui est à une haute valeur ajoutée. En tout cas, ça peut être fait par des machines. Et c'est, je trouve, hyper bien d'avoir des subventions de la part de la région qui met le pied à l'étrier pour faire en sorte d'investir et pas trop de se poser de questions sur de quoi ça fait l'avenir. Parce que c'est un peu le sujet quand on est entrepreneur. On a toujours cette boule de cristal de se dire de quoi ça ferait l'avenir. Est-ce que je peux investir dans la robotisation? Et le parcours sud d'industrie pour lequel on a bénéficié nous a permis justement de ne pas trop se poser de questions et d'investir et de le faire sonner monnaie sonnante et trébuchante pour faire en sorte que ça se réalise et que ce ne soit pas juste une belle phrase ou un projet qui reste dans les tableurs Excel.
Merci. Martin Guinchard, donc un entrepreneur engagé sur le territoire avec Sacré Willy. On dégustera bien sûr avec plaisir vos produits. C'est toujours agréable de recevoir quelqu'un qui fait du chocolat et des crèmes plutôt que des ordinateurs ou des panneaux solaires. C'est plus sympathique. Merci beaucoup Martin, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.